On commence par le journal de Clara Le Coq Réal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le rêve du Brexit est en train de mourir. Boris Johnson justifie en ces mots sa démission. Le désormais ancien ministre des Affaires étrangères britannique quitte le navire. La première ministre Theresa May minimise. Nous irons à Londres dans un instant.
En Iran, des jeunes femmes sont arrêtées pour avoir dansé sans voile sur Instagram. Indignation d'internautes qui se mobilisent à leur tour, vous l'entendrez.
Nous reviendrons ensuite sur le discours d'Emmanuel Macron à Versailles hier devant les parlementaires. Discours suivi par certaines associations réunies à Paris et nous y étions.
Aujourd'hui, le chef de l'État s'envole pour Saint-Pétersbourg. Il assistera à la demi-finale du Mondial de football France-Belgique. C'est ce soir.
Et à cette occasion, des intellectuels se mobilisent pour faire entendre la voix du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie et en grève de la faim depuis près de 2 mois.
La réforme des institutions après un congrès à Versailles. Nous en parlerons avec la première invitée des matins, la députée En Marche, Yael Braun-Pivet, sera avec nous à partir de 7h40.
Sitôt parti, sitôt remplacé. Jeremy Hunt, jusqu'ici ministre de la Santé britannique, a été nommé hier soir ministre des Affaires étrangères. Il remplace au pied levé l'eurosceptique Boris Johnson. Partisan d'un Brexit dur, ce dernier avait démissionné un peu plus tôt hier dans le sillage du ministre du Brexit, David Davis. Et cela à cause de désaccords avec Theresa May sur son dernier plan pour sortir de l'Union européenne. Des désaccords, c'est le mot employé par la première ministre. Boris Johnson, lui, est plus direct au Tsoufi.
Les médias parlent ici d'attaques sanglantes, de critiques dévastatrices de la part de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Les mots de sa lettre de démission sont en effet très durs. Le Royaume-Uni ne doit pas, selon lui, maintenir de relations commerciales étroites avec l'Union européenne comme l'envisage Theresa May. Il écrit même « Nous nous dirigeons vraiment vers le statut de colonie ». Pour Boris Johnson, le Brexit devrait représenter un espoir, une chance de faire les choses différemment, mais il estime que c'est actuellement un rêve qui se meurt sous le poids d'inquiétudes inutiles. Il considère que le plan de la Première ministre n'est qu'un demi-Brexit. Theresa May, elle, n'est pas de cet avis.
C'est le Brexit qui est dans notre intérêt national. C'est le Brexit qui correspond à la décision démocratique des Britanniques. C'est le bon accord de Brexit pour le Royaume-Uni et je demande au Parlement de l'approuver.
Hier, elle a défendu sa vision devant le Parlement. Elle l'a ensuite fait en privé devant les députés de sa majorité. Beaucoup de conservateurs veulent aussi un Brexit plus dur. Et ce week-end, l'idée d'une motion de défiance à l'encontre de Theresa May a été évoquée. Mais la peur du chaos que cela causerait et du risque de perdre la majorité a, semble-t-il, freiné leurs ardeurs.
Un gouvernement britannique qui tient donc à un fil. Theresa May a d'ailleurs repoussé ses annonces sur son plan Brexit à la semaine prochaine. Le temps d'y apporter sans doute quelques modifications. Donald Trump met fin au suspense. Le président américain a nommé cette nuit le très attendu nouveau magistrat de la Cour suprême des États-Unis. Et sans surprise, c'est un conservateur. Il s'agit du juge de cour d'appel Brett Kavanaugh. Un juge aux références impeccables a justifié Donald Trump hier soir. Âgé de 53 ans, catholique pratiquant. Kavanaugh a été conseiller de la Maison-Blanche sous la présidence Bush-fils. Partons maintenant en Iran, où danser est considéré comme un acte anti-islamique. Voilà plusieurs semaines que des jeunes se retrouvent régulièrement arrêtés par les autorités après avoir posté sur les réseaux sociaux des vidéos de leurs performances, en danse donc. De quoi susciter, Valérie Crova, l'indignation de très nombreux internautes dans le pays.
Après les femmes qui enlèvent leur foulard en public, voilà les autorités iraniennes confrontées à un nouveau défi, celui de ces jeunes femmes qui se filment en train de danser dans la rue ou chez elles. Dans les deux cas, c'est interdit. Par la loi islamique, les femmes ne peuvent pas danser devant des hommes, à l'exception de leur mari. Maïdeh Ojabri a choisi sa chambre pour danser sur de la musique pop face caméra. Pantalon taille basse qui laisse entrevoir des tatouages, la jeune iranienne de 18 ans se déhanche, tourne sur elle-même et prend des postures sexy. Circonstance aggravante, ses cheveux ne sont pas couverts. D'abord arrêtée, la jeune fille a dû venir se confesser sur la chaîne de télévision publique où elle a avoué en pleurs ne pas avoir voulu attirer l'attention ni encourager d'autres femmes à faire comme elle. Des aveux qui semblent lui avoir été arrachés. Dans la foulée, d'autres jeunes femmes ont mis en ligne leurs propres vidéos de danse en soutien à Maïdeh. Mais pour éviter que le mouvement ne prenne de l'ampleur, les autorités pourraient être tentées d'interdire Instagram. Les autres réseaux sociaux comme Facebook et Twitter sont autorisés mais filtrés. On se souvient qu'en 2014, 6 jeunes Iraniens avaient été arrêtés pour avoir dansé sur la chanson de Pharrell Williams, Happy. La vidéo avait provoqué la colère des milieux conservateurs qui regrettaient que les jeunes Iraniens délaissent les valeurs islamiques.
Des précisions signées Valérie Crovard.
7h05 sur France Culture, la suite de votre journal, la Clara Lecoq-Réal. Les députés se préparent à 2 semaines de débats houleux à l'Assemblée. C'est le début aujourd'hui de l'examen du projet de réforme des institutions.
Et s'il prévoit des évolutions assez consensuelles, comme la suppression de la Cour de justice de la République ou l'inscription de la préservation de l'environnement dans l'article 1er de la loi fondamentale, eh bien ce texte suscite aussi et surtout l'inquiétude des parlementaires, notamment sur la limitation du nombre d'allers-retours d'un projet de loi entre les deux chambres, ce qui risque, selon certains élus, d'affaiblir le Parlement. Des critiques répétées hier à Versailles lors d'un congrès. Emmanuel Macron a évoqué devant les parlementaires, dans les grandes lignes, les chantiers de l'année à venir, sans grande précision. Seule annonce hier, la possibilité pour le chef de l'État de répondre aux parlementaires lors de ce même congrès l'année prochaine. Des critiques donc de certains, de droite comme de gauche. Hier aussi, plusieurs associations, Droit au logement, la CGT chômeur ou encore Attac s'étaient réunis lors du discours Place de la République à Paris. Et c'est un reportage de Clotilde Ravel.
Pour l'occasion, la centaine de militants rassemblés Place de la République avaient choisi une mise en scène symbolique. Un trône, une piscine gonflable et des assiettes en or. À l'écoute du discours, les réactions fusent.
Une réforme sans précédent.
Après 1h30 de discours, réaction de Malika Zediri, militante et porte-parole d'une association de lutte contre le chômage.
Déjà, j'ai envie de dire, mais quelle hypocrisie, quel appel au talent. Mais il ne nous répond pas, ce garçon. Il nous explique juste qu'on est déhydraté, quoi. On a loupé. Moi, je me dis, Malika, t'as passé ta vie à tout louper. C'est une espèce de culpabilisation comme ça dont il se défend. Mais il y a ça en dessous.
Culpabilisation et omission volontaire de certains sujets, selon les manifestants. Jean-Baptiste Hérault représente l'association Droit au logement.
Il n'a pas parlé du logement, et pour cause, puisque le budget 2019 prévoit une nouvelle amputation du budget des APL avec une baisse de 1,3 milliards d'euros qui vont être prises directement sur le dos des allocataires. Donc ils ont sacrifié, on va dire, le droit au logement.
Autre sujet évoqué, mais seulement partiellement, selon une militante d'Attac, le handicap.
Voilà, il n'a pas eu de handicap, il n'a pas dit qu'il supprimait les aménagements des logements pour les handicapés. Il va les rabaisser à 10% au lieu de 70% actuellement, c'est vachement grave.
Frustration et colère prédominent chez les manifestants. L'un d'eux lance pourtant déterminé, le combat continue.
Le groupe pharmaceutique Sanofi met finalement à l'arrêt son usine polluante dans les Pyrénées-Atlantiques à Mourinx. Une décision qui arrive après le tollé suscité ces derniers jours par des informations de France Nature Environnement. Informations sur ses émissions hors normes de rejets toxiques. 1200 policiers et gendarmes mobilisés ce soir à Paris. Un écran géant devant l'hôtel de ville. Des Champs-Élysées prêts à être investis. La demi-finale de la Coupe du Monde de football se prépare. France-Belgique aura lieu ce soir à 20h. En Russie, Emmanuel Macron assistera à ce match à Saint-Pétersbourg. Et avant son départ, la Société des réalisateurs de films appelle à la libération immédiate d'un cinéaste, l'Ukrainien Oleg Sentsov. Il est en grève de la faim depuis la mi-mai. Il avait été arrêté en 2014 en Crimée pour avoir manifesté contre l'annexion russe. Geneviève Brissac, écrivaine, éditrice, fait partie des signataires de la pétition.
La circonstance, c'est que c'est le mondial cette semaine, que dimanche prochain c'est la finale, que ça se passe donc en Russie, et qu'il y a une obscénité, comme disait Marie Dariussec, une horreur à penser qu'un homme se meure juste parce qu'il a été courageux, digne, qu'il a placé ses principe au-dessus de sa peur et des risques qu'il prenait et qu'il prend d'ailleurs pour sa vie. C'est horrible de penser que cet événement-là est masqué, étouffé par les bruits de la Coupe du Monde de foot. D'innombrables voix, si elles s'élèvent contre l'injustice, contre tout simplement l'arbitraire, peuvent forcer le pouvoir russe, enfin Vladimir Poutine, va libérer Oleg Sentsov et les autres prisonniers politiques, en fait.
Et à la pétition en ligne s'ajoute une tribune d'intellectuels français dans le quotidien Le Monde. Si aucune initiative vigoureuse ne survient, Oleg Sentsov va mourir en prison, préviennent-ils. Le bilan ne cesse de s'alourdir, 141 morts au moins au Japon après les pluies torrentielles de la semaine dernière. Entre boue et décombres, sous un soleil de plomb, les sauveteurs s'activent toujours à la recherche d'éventuels survivants. Et à côté de cela, la France, elle, respire. Le temps de ce mardi sera encore ensoleillé sur la plupart des régions et il fera un peu moins chaud au nord. Comptez ce matin 17 degrés au Havre, 18 à Lille, 20 à Paris, 23 à Brest, 26 à Bordeaux et Lyon, 30 degrés déjà à Perpignan.